jusqu'à quelle heure j'ai ?
Hein ?
50 minutes, c'est-à-dire ?
Jusqu'à
14h25. Pardon ? Donc 3 quarts d'heure,
oui.
Ça va. Voilà, alors ce matin, dans un premier, après avoir écouté les témoignages, dans un premier temps, on s'est arrêté sur l'expérience de la souffrance comme une expérience humaine fondamentale dans laquelle chaque homme, croyant ou non, peut faire l'expérience du mystère pascal. Voilà, ça c'était notre premier sujet de réflexion ce matin. Le deuxième après-midi qu'on a déjà abordé, mais qu'on va reprendre de manière plus systématique, c'est l'accompagnement de la personne qui souffre. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner spirituellement l'expérience de la maladie ? Voilà, c'est le sujet. C'est le sujet qui m'est demandé de traiter. Voilà. Alors, entendons-nous bien déjà sur l'accompagnement. On accompagne différemment selon que l'on est psychologue, selon que l'on est médecin, selon qu'on est visiteur de malades, etc. Et chaque forme de l'accompagnement a son importance, évidemment. Mais je vais m'attacher à essayer de dire ce qu'est un accompagnement spirituel d'une personne qui souffre. C'est quoi un accompagnement spirituel ? Un accompagnement spirituel, c'est pas un accompagnement nécessairement religieux. C'est pas de la direction spirituelle. C'est pas ça qu'on fait. Un accompagnement spirituel, un accompagnement peut être dit spirituel dès lors qu'il est vécu de manière spirituelle. Donc c'est une manière spirituelle de vivre l'accompagnement. Vous voyez, c'est pas une catégorie à part de l'accompagnement. C'est une manière spirituelle de vivre l'accompagnement. Alors, je vais essayer de dire qu'est-ce que c'est qu'accompagner spirituellement quelqu'un. Qu'est-ce que c'est la posture spirituelle de l'accompagnement ? Je vais essayer de dire ça, d'abord, en général, indépendamment de la question de la souffrance. Et ensuite, deuxième temps, j'essayerai de dire qu'est-ce que c'est qu'accompagner l'expérience de la souffrance. Voilà. Mais je commence d'abord par l'expérience de l'accompagnement en général. Qu'est-ce qu'accompagner de manière spirituelle ? J'ai été clair, hein ? Vous voyez bien, je parle pas de l'accompagnement spirituel, comme on dit des fois, j'ai un accompagnateur spirituel, je vais aller le voir pour lui parler, etc. Je ne parle pas spécifiquement de cette forme d'accompagnement. Je parle de l'attitude spirituelle qu'on peut avoir quand on accompagne quelqu'un. Quand est-ce qu'on est spirituel quand on accompagne quelqu'un ? On est spirituel quand on accompagne quelqu'un, quand on laisse la place à l'esprit. Voilà, quand on laisse la place à l'esprit. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement spirituel. Et quand on se met à l'écoute de l'Esprit-Saint, c'est une posture, c'est une manière d'être. C'est une manière d'être. Il faut se mettre à l'écoute d'un principe spirituel qu'on appelle l'Esprit-Saint, que je pourrais appeler le Christ aussi. Première conséquence, c'est ça. L'accompagnement n'est jamais duel. C'est-à-dire, c'est jamais une personne qui en accompagne une autre. Un accompagnement, ce n'est pas une personne qui en accompagne une autre. C'est un petit peu plus subtil que ça. Pourquoi ? Parce qu'entre la personne que vous accompagnez et vous, vous risquez d'oublier qu'il y a autre chose. C'est que cette personne, le Christ est en relation avec elle. Le Christ est en relation avec elle. Depuis quand ? Depuis le sein maternel. Dès le sein maternel, je te connaissais. Le Christ est en relation avec la personne. Quand j'accompagne quelqu'un qui vient me raconter sa vie, cette personne n'est pas en face de moi. Je sais que cette personne, il y a le Christ qui fait partie de sa vie. Le Christ l'a choisi depuis longtemps. Depuis longtemps, le Christ est présent chez elle. Et moi, je ne vais pas débarquer comme si j'étais Zorro, quoi. Voilà. Elle a un lien avec le Christ, ou plus exactement, le Christ a un lien avec elle. Donc, quand on accompagne quelqu'un, en fait, on accompagne une relation. On accompagne une relation entre cette personne et, alors moi je dis le Christ, cette personne ne le vit pas nécessairement comme étant le Christ. D'abord, elle peut être incroyante, d'ailleurs. Elle peut dire qu'elle ne croit pas ou qu'elle ne sait pas. Voilà. Donc elle ne le vit pas nécessairement comme ça. Mais le Christ, c'est ce qu'il y a de plus intime à elle-même qu'elle-même. Vous voyez ? C'est la profondeur de son intimité. Je viens de donner une définition de saint Augustin. C'est ce qui est au plus intime d'elle-même. Plus intime à elle-même qu'elle-même. Souvent, elle ne le reconnaît même pas, elle ne le connaît même pas. Mais il y a un lien avec cette profondeur de la personne humaine, avec cette intimité-là de la personne humaine. Donc, vous voyez, j'accompagne pas une personne, j'accompagne une relation. C'est assez différent. C'est triangulé, vous voyez. C'est déjà triangulé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ce qui veut dire, j'en tire une première conséquence, c'est que je vais rentrer dans la vie de cette personne avec une extrême délicatesse. Voilà. Je ne suis pas obligé d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà. Je peux rentrer avec beaucoup de délicatesse dans cette personne. Qu'est-ce que je connais de sa vie ? Qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que je connais ? Voilà. Ah, je peux avoir des grands principes, des grands machins, des trucs, des messages à faire passer, tout ça. Oui, mais ça, tu le laisses un peu de côté. Hein ? Voilà. Et tu rentres avec délicatesse dans la vie de la personne. Parce que, comme Moïse se l'est entendu dire, auprès du buisson ardent, cette terre que tu foules est une terre sainte. La vie de quelqu'un est une terre sainte. On commence par quitter ses chaussures. Quitte tes sandales. Et des fois, ce n'est pas des sandales qu'on a, c'est des grosses pompes. Hein. Voilà. Alors, quitte tes sandales, parce que cette terre que tu foules est une terre sainte. Vous voyez ce que ça nous demande de délicatesse, de prudence, voilà, moi j'arrive à un moment d'une vie d'une personne, mais il s'est tellement passé de choses dans cette vie, voilà, qui demande tellement d'attention et tellement de... Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Voilà. Alors, on peut accompagner de différentes manières. On peut accompagner son conjoint, on peut accompagner quelqu'un, le médecin peut accompagner par rapport à la maladie, etc., etc. Mais tout ça va demander une extrême délicatesse pour respecter la personne, respecter le plus intime d'elle-même qui est le Christ, respecter le temps du malade, etc. Mais on reparlera du malade après. Voilà. Voilà. Alors en plus, donc j'ai dit, la personne accompagnée est en relation avec plus intime qu'elle-même, que j'ai appelé le Christ. Mais celui qui est l'accompagnateur aussi, il est en relation avec le Christ. Moi aussi, j'ai une relation. J'ai une relation avec Dieu. Et Dieu a une relation avec moi. Dieu a une relation avec moi depuis toujours, à laquelle j'essaye de répondre plus ou moins maladroitement, d'ailleurs. Voilà. Donc il y a aussi cette relation-là. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup éclairé dans mon ministère d'accompagnement, c'est Saint-Jean-Baptiste. C'est Saint-Jean-Baptiste. Il est dit de lui, dans l'Évangile, qu'il est l'ami de l'époux. Il est l'ami du Christ. Il est l'ami de l'époux. Voilà. Il n'est pas l'épouse. Il est l'ami de l'époux. Et alors, dans la tradition juive, l'ami de l'époux aidait les préparatifs de l'épouse avant les noces. Il participait aux préparatifs de l'épouse, etc. Voilà. Donc, vous voyez la place de l'accompagnateur. Et le texte dit, l'ami de l'époux, il entend sa voix et il reconnaît sa voix. Voilà. L'accompagnateur, c'est celui qui va essayer d'écouter, hein, on retrouve notre écoute, il va écouter la voix. Il va écouter la voix de l'époux, si je garde ma métaphore. Voilà. Il va écouter la voix de l'époux. Il va écouter la profondeur de cette personne. Il va écouter le Christ. Et alors écouter le Christ, c'est pas des machins. Écouter le Christ, c'est ça, c'est écouter en profondeur autant qu'on comprend ce qui se passe dans la vie de la personne. Voilà. Écouter ce qui est en train de se jouer en termes différents de combat éventuellement. On y reviendra tout à l'heure. Vous voyez, quand j'écoute, j'écoute pas n'importe quoi. Voilà. J'écoute pas n'importe quoi. J'écoute, j'essaye d'écouter. Après, je fais comme je peux. Hein. Bon. Mais j'essaye d'écouter la profondeur de la vie de la personne. Voilà. À vrai dire, je suis toujours dans l'accompagnement en général. À vrai dire, quand j'écoute, moi j'écoute deux choses surtout. Il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement dans l'écoute. C'est un peu mes repères. Quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai envie de faire ça, je pense qu'il faudrait que je fasse des efforts pour mieux progresser dans ma vie, pour être plus sympa avec mon mari, tout ça. Bon, je l'écoute gentiment. Je ne le crois pas beaucoup. Je sais que ça va lui passer. Ça va lui passer. Je n'écoute pas beaucoup, ça, voilà. Tout ça, c'est un peu les efforts qu'on veut faire, vous savez, les résolutions, les choses comme ça. Ça, je ne perds pas beaucoup de... J'écoute, je ne dissuade pas la personne. Elle a des bonnes intentions. Ça peut être bon pour son mari ce soir-là. Bon, voilà. Mais... Et réciproquement. Voilà. Mais moi, j'écoute pas trop les grandes résolutions. Ça. Je sais d'expérience qu'on ne les tient pas beaucoup. Alors, je me méfie de tout ça. Voilà. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce que la personne a reçu. Pas ce qu'elle veut faire, ce qu'elle a reçu. Les soutiens qui lui sont arrivés, les cadeaux qui lui ont été faits. Les cadeaux. Ah oui, ça m'intéresse, ça, les cadeaux qui ont été faits, quand quelqu'un me dit les belles choses qui lui sont arrivées. Voilà. Alors ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Alors là, j'en rajoute un peu. J'en demande un petit peu plus des fois. Voilà. Là, écoutez les cadeaux. Écoutez ce qu'il y a de... Voilà, ce qu'on a reçu. Vous savez, pas ce qu'on a fait. Quand quelqu'un me dit qu'il fait beaucoup du bien aux autres, tout ça, là, c'est pareil, je l'écoute, mais ça ne m'intéresse pas. Bon, il ne faut pas d'abord lui laisser croire trop longtemps. Alors, mais j'écoute plutôt les cadeaux qu'il a reçus. Vous voyez, ce qui lui est arrivé de l'extérieur. Voilà. En théologie, on a un mot pour le dire, on appelle ça la grâce. C'est-à-dire les grâces qu'il a reçues. Les grâces, c'est des cadeaux de la vie. C'est des cadeaux de la vie, voilà. Les cadeaux de la vie qu'on a reçus. Alors ça c'est bien, hein, ça, c'est bien. Oh, voilà, écoutez les cadeaux de la vie. Alors quand quelqu'un me dit que ses enfants sont un cadeau, ah, ça m'intéresse. Alors ça vous réjouit, comment, tout ça, j'écoute, là, attentivement, parce qu'elle est en train de me parler de ce que le Christ lui donne, de ce que Dieu lui donne. Les cadeaux, c'est ce que Dieu nous donne, c'est la grâce. Voilà. Et puis il y a une deuxième chose qui retient beaucoup mon attention, c'est les cadeaux que quelqu'un reçoit aux endroits où il s'est cassé la figure. Alors ça m'intéresse aussi. Vous voyez, on se casse la figure de temps en temps. Voilà. On fait des trucs qu'on ne devrait pas faire. On se casse la figure, quoi. Voilà. Ou alors il y a un couple qui se casse la figure. Ou alors, voilà. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est les cadeaux qui sont faits à cet endroit-là, aux endroits des cassures, aux endroits des ruptures, aux endroits où on a trébuché, où on a tombé, etc. Ça m'intéresse. Parce que ça, en théologie, ça s'appelle le pardon. Le pardon, c'est la grâce qu'on a reçue aux endroits où on a chuté, pour une raison ou pour une autre, peu importe. Aux endroits où on a chuté, voilà. Alors ça m'intéresse. Voilà ce que j'écoute. J'écoute plutôt ça, en règle générale. Je vous parle toujours de l'accompagnement en général. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on n'écoute pas n'importe quoi. Faut pas écouter. Je ne suis pas un psy. Quand des gens viennent me voir, je ne suis pas un psy. Et j'ai beaucoup de respect pour les psys. Et quand je pense que quelqu'un a besoin, je lui conseille. Il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas un psy. Je suis un prêtre, hein, donc j'écoute comme ça. Ou je suis un chrétien, donc j'écoute comme ça, j'écoute avec cette oreille-là. Voilà. Donc on écoute, faut savoir à quelle position on est dans l'écoute. Voilà. Donc c'est très important d'écouter ça. Évidemment, ça va être... par exemple, quand je fais les préparations au mariage, c'est beaucoup ça que j'écoute. Hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous voulez vous marier, mais qu'est-ce qui vous arrive, hein? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors ça m'intéresse, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne leur dis pas comment vous avez fait. Je leur dis qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors il a rencontré une fille, il ne pensait jamais qu'il rencontrerait une fille comme ça. Elle non plus, en fait, etc. Dans des circonstances généralement un peu étranges, bon, en fait, etc. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est la vie de Dieu, c'est intéressant. Ça va? Alors évidemment, ça suppose d'avoir de la foi. Ça suppose que l'accompagnateur ait de la foi. Et je soulignerai bien cet autre point pour l'accompagnement. C'est la foi de l'accompagnateur. Il faut avoir foi que l'Esprit de Dieu travaille dans la vie des autres. Il faut croire que l'Esprit de Dieu travaille dans la vie des autres. La foi. La foi de l'accompagnateur. Hein. La foi de l'accompagnateur. Voilà. La foi, il y a une définition dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, un merveilleux chapitre 11 sur la foi, qui dit « La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de ce qu'on ne voit pas. » L'attestation de ce qu'on ne voit pas. Voilà, il faut avoir la foi. Si je reçois un couple, qui vient se marier dans mon bureau, et ce que je me dis, « Off, les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, vous savez comment ils sont, les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, oh là là, pff, ils savent rien, et ils croient pas, ils n'ont pas la foi, il faut tout leur apprendre, tout ça. » Il ne se passera rien de bien. Il ne se passera rien de bien. Rien de bien. D'abord, je n'ai pas le droit de dire ça. Quand je dis « ils n'ont pas la foi », je m'accuse moi-même. C'est moi qui manque de foi quand je dis ça. Quand je dis « ils ne savent rien », c'est moi qui manque de foi. Parce qu'en fait, ils savent bien quelque chose, ils viennent se marier. Ils savent bien quelque chose. Ils savent bien quelque chose de l'amour. Et qui a fait l'expérience de l'amour fait l'expérience de Dieu, non ? Non. Donc, ils savent bien quelque chose. C'est plutôt à moi de croire qu'ils font l'expérience de Dieu en s'aimant. Et donc, je vais essayer d'être attentif, d'avoir la foi profonde dans ceux qui vivent. Mais vous voyez, pour accompagner, il faut croire que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Si vous ne croyez pas que l'Esprit Saint est à l'œuvre, vous ne pouvez pas accompagner spirituellement. Alors vous croirez qu'il faut faire des leçons aux autres. Alors vous leur enseignerez, vous leur ferez du catéchisme, vous leur ferez des leçons. Mais vous ne serez pas accompagnateur. Vous serez catéchète, la catéchète de temps en temps, il faut en faire, hein, pas de problème. Vous serez catéchète, mais vous ne serez pas accompagnateur. Accompagnateur, c'est croire que le premier qui bosse, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Je vais rejoindre le travail de l'Esprit Saint dans le cœur des gens. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que je crois à ce que dit le Concile au numéro 2 de la Révélation chrétienne, « Il a plu à Dieu de se révéler lui-même. » Et Dieu parle aux hommes comme à des amis. Voilà. Dieu se révèle et il parle aux hommes. Alors il ne leur dit pas « Coucou, c'est moi Dieu ». Ça, c'est rare que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent parce que c'est inquiétant. Bon. Donc il ne le dit pas comme ça. Il ne dit pas son nom. Il ne dit pas son nom. Mais il se révèle lui-même. Lui-même. Il ne dit pas son nom, il se révèle lui-même. L'amour, c'est lui-même. Voilà. Dans les cadeaux de la vie, c'est lui-même qui se donne. Dans le pardon, c'est lui-même qui se donne. Voilà. Donc, voilà ce que c'est. Voilà l'accompagnateur. Voilà l'accompagnateur. La foi de l'accompagnateur est toujours sollicitée. Il faut avoir la foi. Voilà, il faut avoir la foi. Si vous voulez accompagner spirituellement, il faut avoir la foi. Sinon, vous accompagnez pas spirituellement, vous faites autre chose. On peut faire plein d'autres choses. Voilà. Alors, maintenant, il faut accompagner la souffrance. C'est mon deuxième volet. C'est accompagner la souffrance. Alors là, il va y avoir quelques aspects de plus. Il faut accompagner la souffrance. Alors là c'est difficile d'accompagner la souffrance. Pourquoi c'est difficile d'accompagner la souffrance ? Mais pour deux raisons. C'est que l'autre souffre, et c'est pas marrant, sauf d'être maso, mais c'est pas marrant de voir quelqu'un souffrir. C'est pas marrant du tout. Voilà. Donc accompagner la souffrance de l'autre, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Quand j'accompagne des fiancés qui s'aiment, bah, ça va, c'est sympa, ils s'aiment, quoi, c'est super, il y a plein de belles choses. Quand c'est la souffrance, c'est moins sympa, quoi. Hein. Voilà, c'est moins sympa. Donc il y a la souffrance. Première chose. Et deuxième chose, c'est que moi, j'ai aussi mes propres blessures. J'ai aussi mon expérience de la souffrance. Et puis j'ai mes peurs devant la souffrance. Et j'ai beau être prêtre, baptisé, confirmé, tout ce que vous voulez, j'ai mes peurs aussi devant la souffrance, devant l'expérience du mal. Et puis moi, je suis blessé aussi, il y a des endroits où je n'ai pas envie qu'on touche, parce que ça me fait mal quand on y touche. Voilà. Donc, vous voyez, l'accompagnement de la souffrance, c'est un accompagnement particulier, qui demande du courage pour affronter la souffrance de l'autre et une connaissance de soi. Et un peu de connaissance de soi. Un peu de connaissance. Il faut savoir aux endroits où on est fragile. Il faut savoir aux endroits où on est fragile, oui. Et ça, il va falloir en prendre soin. Vous savez, moi, j'ai été terriblement marqué. Mon premier enterrement, j'ai enterré un gamin. C'était mon premier enterrement. Voilà. Et c'était le premier enfant de ce couple, un bébé. Voilà. Premier enfant. Ce couple était effondré, évidemment. Et moi, je l'étais autant qu'eux. J'avais le même âge qu'eux. Je l'étais autant qu'eux, quoi. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Heureusement que j'avais un copain avec qui j'ai pu déverser, j'ai pu poser, j'ai pu parler, j'ai pu... Voilà. Voilà. Donc, il y a un soin à prendre de soi dans l'accompagnement. Voilà. Après, quand j'étais supérieur de séminaire, les gars qui étaient arrivés au diaconat, tout ça, je leur disais, vous y faites enterrer une grand-mère, hein, qui ne commence pas par un enfant. Hein. Bon, voilà, non, mais c'est pas rigolo de dire une grand-mère, mais enfin, c'est pas un bébé, quoi, hein, voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, cette souffrance, il faut la prendre en compte. Sa propre fragilité, il faut la prendre en compte. Voilà. Il faut la prendre en compte. Il faut un peu la connaître. Et des fois, il faut après aller... Il faut souffler, quoi. Il faut la déverser. Il faut souffler. Il faut la poser quelque part, quoi. Hein. Alors la prière, ça aide bien pour la poser. Mais des fois, on a besoin aussi d'une écoute amicale et compatissante. Alors vous en avez, dans l'Écriture, vous avez un truc super. Vous avez les amis de Job. Les amis de Job. Alors eux, ils sont super. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Job. Si vous n'avez pas lu, allez le lire. C'est pas bien long. Eliphaz, Bildad et Sophar, ils s'appellent. Ça peut vous donner des idées pour des prénoms, et des fois. Donc, Eliphaz, Bildad et Sophar. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, voilà. Alors, si vous lisez le livre de Job, vous verrez un truc, c'est qu'il parle beaucoup. Il parle. Vous voyez l'accompagnateur. Ils accompagnent, c'est ses amis. Ils accompagnent Job. Et ils n'accompagnent pas, ils parlent. Ils parlent. C'est comme la dame que je citais qui est arrivée, qui avait eu chaud dans le car. Elle nous a saoulés de ses paroles. Voilà. Il parle. Et pourquoi il parle? Vous avez compris pourquoi il parle? Parce que la souffrance de Job les dérange. Immeuble. Voilà. Quand on parle beaucoup, vous savez, immeuble. Voilà. Voilà un trait que nous révèle l'Écriture. Et puis alors, ce qui les dérange par-dessus tout, c'est que Job dit qu'il est innocent. Et alors, ils vont le baratiner et dire « Mais non, tu n'es pas innocent, tu as bien dû faire un truc. Allez, il y a un truc que tu ne veux pas nous dire, que tu as fait quand même. Allez, bon, on sait bien que tu as fait un truc. Allez, tu sais, ça arrive à tout le monde, tu as bien dû le faire. » Alors, il le baratine. Il faudrait à tout prix qu'il dise qu'il n'est pas innocent. Que s'il lui arrive quelque chose, c'est que vraiment, quand même, il le mérite un peu, quoi. Il le mérite un peu. Hein, voilà. Vous avez compris. Voilà. Que le fait que Job dise « Non, je suis innocent », ça vient bousculer leur conception du mal, et ça, ils supportent pas. Et puis, troisième truc, tout à l'heure, Jean-Christian en parlait. Job, il gueule sa révolte. Voilà. Et ça, ils n'aiment pas, c'est pas politiquement correct. C'est pas politiquement correct. Donc, ils le reprennent quand même là-dessus, ils font un peu la leçon. Voilà, ils gueulent sa révolte. Ça se rend compte que la révolte est une prière. Mais les psaumes sont pleins de révolte. Voilà. Quand on dit les psaumes tous les jours, on dit des psaumes de révolte. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que la révolte dure trop longtemps. Voilà. Parce qu'après, ça fait beaucoup de mal. Mais un peu de révolte, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. C'est un peu comme la colère. Hein. Il ne faut pas que le soleil se couche dessus, dit l'Écriture. L'Écriture ne nous dit pas de jamais nous mettre en colère. Il dit il ne faut pas que le soleil se couche dessus. Voilà. L'Écriture est plus sage que nous, souvent. Donc, vous voyez, accompagner, c'est prendre en compte ce que l'on est soi. Les peurs qu'on a, les amis de Job, ils ont peur. Les peurs qu'on a, la souffrance de l'autre qui nous dérange, hein, qui vient nous toucher, qui vient nous... Voilà. Sa révolte, ses cris, des fois, c'est pas agréable d'entendre l'autre gueuler. Parce que c'est pas agréable, bien sûr. Voilà, ça fait partie de l'accompagnement. Voilà. Et puis ensuite, vous savez, dans ces cas-là, on peut beaucoup parler... Et on peut aussi consoler à bon compte. J'y reviendrai tout à l'heure. J'en redirai un mot tout à l'heure. Voilà. On veut le consoler pourquoi? Parce qu'il nous renvoie l'image de la fragilité humaine. C'est-à-dire notre propre fragilité. Et ça nous enquiquine qu'il y ait quelqu'un qui nous renvoie notre propre fragilité. Voilà. Quand je vais voir ma mère dans son EHPAD... Inévitablement, la question se pose de ma propre fragilité. Un besoin de toi aussi, tu y passeras. Voilà. Inévitablement, ça me revient par le nez. J'y suis pour rien. Ça monte du fond de moi. Je suis pour rien. Voilà. Donc il faut le porter. Hein. Il faut le porter. Là, voilà. Alors dans la souffrance, vous voyez, on a un accompagnement un peu particulier. Quand on accompagne la souffrance, on accompagne un combat. Voilà. Un combat contre le mal. Que mène une personne. Voilà. Et j'ai évoqué ce matin que c'était l'attitude de Jésus vis-à-vis de la maladie. Quand il rencontre quelqu'un qui est malade, il ne lui dit pas « Attends, tu vas voir, ça va passer un peu. Bon, » Il ne dit pas ça. Il ne dit pas non plus « Tu vas voir, je vais t'expliquer d'où vient le mal. type, il s'en fout, il est paralysé. Il n'a pas envie que vous expliquiez d'où vient le mal, il veut guérir. Bon, voilà. Et par contre, il fait dire à la personne, qu'est-ce que tu veux? Alors il demande à un aveugle, qu'est-ce que tu veux? Et moi, je connaissais la réponse, hein, c'est pas bien qu'il le demande. Hein. Bon, je connaissais la réponse. Hein. Mais il laisse la personne exprimer son attente. Ça, c'est très important. Il laisse la personne parler. Et symboliquement, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux y voir. Hein. Je vois rien, je veux y voir. Ah ben oui, d'accord. Voilà. Donc, laissez venir la parole de l'autre. Laissez venir la parole de l'autre. Laissez venir la parole de l'autre. Alors, on a plusieurs cas de figure. Ça vaut vraiment la peine de regarder la manière dont Jésus se comporte vis-à-vis des malades. Quoi. Il faut méditer ça vis-à-vis des personnes malades ou en situation de handicap ou divers. C'est très, très intéressant. C'est très, très intéressant. C'est très éclairant. Il y a telle ou telle figure qui peut éclairer beaucoup. Hein. Telle ou telle figure qui peut éclairer beaucoup. Il y en a un qui me touche beaucoup, c'est le paralysé. Le paralysé. Et alors, voilà, il lui demande qu'est-ce qu'il veut. Bon, il le guérit et il lui dit, bon, prends ton brancard et marche. C'est pas sympa. Il aurait dû lui dire, laisse ton brancard là et casse-toi. Il dit, prends ton brancard et marche. Donc le type, il se balade avec son brancard, quoi. Hein. Voilà. Eh bien, vous voyez bien symboliquement ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que la traversée de l'épreuve, on la garde, quoi. Vous voyez, le brancard, c'est la cicatrice. C'est la cicatrice qu'on a. On garde des cicatrices. Voilà. La cicatrice, c'est pas rien, la cicatrice, quand on y réfléchit. Voilà. On garde la cicatrice. Parce qu'on se rappelle, de ça. Et on a peut-être, probablement, que c'est pas pour l'enquiquiné qui lui dit « prends ton brancard », mais garde la mémoire de l'homme paralysé que tu étais. Oui.
Je prends toujours. Quand j'ai subi mon opération, j'ai une énorme cicatrice et ça a été très compliqué, le rapport au corps aussi, retrouver son corps. Et j'ai une amie qui m'a raconté cette histoire. Au Japon, quand un vase historique se casse, ils recollent les morceaux avec de l'or et ils refont un autre objet d'art.
Oh là là, magnifique, magnifique. Ah, je vais le noter, ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, la cicatrice. On garde ça aussi, oui. C'est important. Voilà, donc accompagner un combat. Et alors, l'onction des malades que j'évoquais tout à l'heure en répondant aux questions, l'onction des malades est le signe de ce combat contre le mal. Et que ce combat contre le mal, on ne le vit pas seul. Ah, voilà. Ça, c'est très important. Vous voyez, on combat le mal, le médecin combat le mal, la personne qui est malade combat le mal, etc., s'accroche, etc., etc. Mais ou en situation de handicap, pareil, mais le sacrement des malades, c'est le signe qu'on n'est pas seul. Je ne suis pas seul à combattre. Je ne suis pas seul à combattre. Ça, c'est le message biblique constant. Tu n'es pas seul à combattre. Voilà. C'est Dieu combat à tes côtés. Dieu Alors, tout le Premier Testament est rempli de ça, de ces combats de Dieu. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand Gédéon va combattre les ennemis, il a une armée très puissante. Et alors Dieu lui dit, attends, tu les fais passer devant le ruisseau, ceux qui boivent en restant debout, tu les prends, ceux qui mettent le genou à terre, tu les renvoies à leur maison. Et du coup, il reste plus qu'une petite troupe. Alors il avait une grosse troupe, il était sûr de gagner les ennemis, il a une petite troupe, il n'est pas sûr de gagner. Voilà. Et la raison, c'est quoi? C'est pour que tu comprennes bien que si tu gagnes, ce n'est pas uniquement grâce à toi. C'est grâce à la force de Dieu. Voilà. Et là, l'onction des malades vient nous dire ça. On ne gagne pas les combats dans la vie tout seul. On ne gagne pas tout seul. D'abord, on gagne avec les autres, mais on ne gagne pas tout seul, parce qu'à travers les autres et de différentes manières, Dieu est présent dans les combats. Et ça, c'est là, ça, c'est ce qui est dit au moment de l'onction des malades. Le salut est donné par Dieu. Voilà. Vous savez, des fois, on a une expression, on dit « je m'en sortirai ». Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Attends, tu ne t'en sortiras pas tout seul. C'est rare qu'on s'en sorte tout seul, vous savez. Quand on dit je m'en sortirai tout seul, je m'en sortirai tout seul. Pas sûr, pas sûr. En tout cas, en situation de maladie, on a entendu encore ce matin, on ne s'en sort pas tout seul. On a besoin d'aide, on a besoin d'autres. On a besoin de. Voilà. Il y a une présence des autres et une présence de Dieu qui est là. Et l'onction des malades, c'est ça. C'est Dieu qui agit dans la faiblesse. Je ne te laisserai pas tomber. Voilà. J'agis dans la faiblesse. Je suis présent dans la faiblesse. Jusqu'au bout, y compris quand il s'agit de l'extrême onction, où je ne te laisserai pas tomber dans la mort. Tu passeras par la mort, mais pour avoir accès à la vie. Voilà. Dieu ne nous laisse pas tomber. C'est très important, c'est très important. C'est un peu présent dans tous les sacrements, mais la caractéristique du sacrement des malades, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. Je suis avec toi dans ton épreuve.
Voilà.
De quoi ? Ah, mais parce que je ne sais pas pourquoi. On ne le fait pas assez. C'est un très beau sacrement. Mais on vient de loin, hein. Attendez, on vient de loin. Hein. Bon, pour l'histoire de l'Église, 50 ans, c'est rien. Hein. L'extrême onction, c'est pas si vieux. On avait fait du sacrement des malades un sacrement pénitentiel. C'est-à-dire, l'onction des malades, je ne peux pas vous expliquer le mécanisme, ce sera un petit peu long, mais l'onction des malades regroupée la dernière confession et la dernière communion et le viatique. Et alors, on était petit à petit, en insistant sur le caractère pénitentiel, on l'avait poussé au bout de la vie. Voilà. Et c'était devenu l'extrême onction. Grâce au travail de la liturgie, sur les pères de l'Église, etc., etc., on a rénové, au moment du Concile Vatican II, on a rénové l'onction des malades. Et on l'a rapatriée de là où elle s'était égarée, c'est-à-dire dans l'onction des malades, pour la remettre au centre, pour étant vraiment un sacrement à part entière, et pas le jour où on passe l'arme à gauche, mais pour être vraiment un sacrement pour la force dans la faiblesse physique. Physique, pas morale, physique. La force dans la faiblesse morale, c'est le sacrement de la réconciliation. La force dans, dans l'épreuve physique, c'est le sacrement des malades. Voilà. Alors, on a retrouvé ça, mais on ne l'a pas bien retrouvé dans les pratiques, hein. Mais vous savez, on a beaucoup de choses de Vatican II qu'on n'a pas encore bien mis en œuvre. Hein. On a beaucoup de chemin à faire. Beaucoup. Beaucoup. Les générations qui viennent auront beaucoup de travail à mettre en œuvre les choses que nous n'avons pas faites. Voilà. Voilà. Donc c'est la force, c'est vraiment la force au cœur de la fragilité, au cœur de la fragilité physique. C'est un moment où on a besoin de l'entendre, cette force-là.
Alors, les accompagnants.
Oui. Non, je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, elle y était. Est-ce que les accompagnants vont recevoir le sacrement des malades ? Non, ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Ne confondez pas. Enfin, peut-être qu'ils sont malades, mais alors qu'ils le disent, quoi. Mais en principe, ils ne sont pas malades.
Non, mais ils souffrent.
Ah non, oui, mais attendez, ils souffrent. Mais on souffre de plein de choses. Moi aussi, je souffre moralement de plein de choses, de la société française, de l'Église et tout ça. Ce n'est pas parce que je souffre de l'Église particulièrement en ce moment que je vais recevoir le sacrement des malades. Bon, si chaque fois que je souffre, je reçois le sacrement des malades, je ne m'en sors plus. Bon, voilà. Non, c'est bien le sacrement dans la maladie, dans l'épreuve physique, dans la grande épreuve physique, soit le très grand âge et la grande faiblesse, soit la maladie importante, quoi. Je sais bien qu'à l'époque de Saint Césaire d'Arles, d'abord, à l'époque de Saint Césaire d'Arles, les chrétiens avaient chez eux l'huile pour les malades. Ils avaient des petites fioles, des petites gourdes comme ça, où ils avaient l'huile pour le sacrement des malades. Et quand ils avaient quelque chose, ils se prenaient de cette huile-là, ils la mettaient pour les entorses, pour bon. Mais ça a été une époque. Mais donc, il ne s'agit pas de ça. Mais donc, non, le sacrement des malades, c'est vraiment quand je suis dans l'épreuve physique et l'épreuve physique conséquente. Si j'ai la grippe, je prends un afaga. Voilà.
Quelqu'un qui a déjà reçu l'onction des malades.
Il peut le recevoir plusieurs fois. Plusieurs fois, sans problème. Sans problème. Sans problème. Voilà. Ça va ? Ça va. Alors, le texte français de l'onction dit d'ailleurs que le Seigneur, en sa grande bonté, te réconforte. Que le Seigneur, en sa grande bonté, te réconforte. On ne l'utilise pas assez, on ne le vit pas. L'utiliser, ce n'est pas mon mot. On ne le vit pas assez. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, il faudrait le vivre régulièrement dans les paroisses. Régulièrement dans les paroisses. À un moment, dans la paroisse où j'ai été, on le faisait au moins une fois par an, si pas deux. Régulièrement. C'était bien. Ça parlait à tout le monde. Voilà, ça c'est pour l'onction des malades. Ensuite, il y a la communion. Vous savez que les sacrements des malades sont divers. Au centre, il y a l'onction qui est le sacrement le plus important. Mais ce matin, on a évoqué la visite aux malades. Là, j'évoque aussi la communion aux malades. La communion aux malades est un des sacrements des malades. La communion portée aux malades. N'importe quel chrétien peut être ministre de la communion portée aux malades. Comme peut être ministre de la visite des malades. Voilà. Donc, la communion aux malades. Alors, la communion revêt une importance particulière dans ce cadre-là, dans le cadre de la maladie. Dans le cadre de la maladie. Parce que, et on l'évoquait un peu tout à l'heure, la maladie peut être le lieu, et la maladie et le combat qui va avec, peut être le lieu d'une plus grande communion avec le Christ. On n'est pas obligé d'attendre d'être malade pour être en communion avec le Christ, hein. Autant se le dire encore. Hein. On n'est pas obligé d'attendre d'être malade. Mais dans l'épreuve de la maladie, ça peut être, il peut y avoir, il peut pas toujours, hein, pas toujours, c'est pas fatal, mais il peut y avoir une communion plus grande qui s'établit entre la personne et le Christ, une réponse plus grande de la personne au Christ. Voilà. Ça peut se jouer là. Et donc cette communion revêt un caractère particulier. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller lui porter la communion parce que ça lui fait plaisir, c'est sympa, c'est dimanche. Voilà. La communion véritable, c'est pas uniquement le geste sacramentel. Il y a le geste sacramentel qui consiste à porter la communion à quelqu'un. Mais la communion eucharistique, c'est l'union intime entre la personne et le Christ. Entre le Christ et la personne et le Christ. Et le geste sacramentel, il est là pour venir révéler et servir cette communion-là. C'est fait pour révéler et pour servir. Signe et moyen, sacrement, signe et moyen. Donc, signe, révéler, moyen, servir. Servir la communion que la personne est en train de vivre avec le Christ à travers ce moment particulier de sa vie, ce moment particulier de sa vie où elle est éprouvée physiquement. Voilà. Mais ce n'est pas que la communion entre la personne et le Christ. Je reviens à mon corps du Christ tout à l'heure. Le corps multiforme du Christ, comme on disait au Moyen-Âge. Le corps multiforme du Christ, le pain eucharistique, mais aussi mon propre corps, le corps de l'autre, le corps de la communauté, le corps de l'humanité. La communion avec le Christ, ce n'est pas uniquement la communion de la personne avec Jésus, c'est la communion avec le Christ, et donc ça se joue aussi à travers la communion avec son conjoint, la communion avec ses amis, la communion avec ceux qui viennent le visiter, la communion avec la communauté chrétienne, etc. Voilà. Vous voyez ? La communion avec le Christ, ce n'est pas que la communion avec Jésus. Quand à la messe, vous communiez avec le Christ, vous communiez avec Jésus, mais en même temps, vous communiez avec votre frère. Voilà. Ça vous est révélé. D'ailleurs, il y a un geste de la liturgie qui le fait faire. Ça s'appelle le baiser de paix. Le baiser de paix, ce n'est pas pour se dire bonjour, sinon on l'aurait fait au début. Les liturges ne sont pas fous, ils réfléchissent de temps en temps. Donc ils l'auraient fait au début. Ce n'est pas au début qu'on le met, c'est à la communion. C'est la communion. C'est parce que je vais embrasser mon frère, comme tout à l'heure, je vais consommer le pain et le vin consacrés. Voilà. Mais comme mon frère, je ne peux pas le manger parce que ce serait indigeste, je lui fais un bisou. Voilà. Mais le baiser, c'est la manducation symbolique en anthropologie. C'est la manducation symbolique. Voilà, vous savez bien, quand un petit bébé, vous faites sa toilette, vous faites des gros bisous sur le ventre, et vous dites « Ah, je te mangerai ». Et vous en gardez bien, vous en gardez un peu pour le lendemain. Voilà. Mais c'est ça. Donc le baiser de paix, c'est le signe que la communion au corps du Christ, c'est la communion à Jésus, mais c'est la communion à Jésus dans et par et avec le frère. Le frère, etc., et la communauté. Donc la communion aux malades révèle la communion qu'il y a entre cette personne et le Christ et cette personne, mais aussi les liens forts de communion qu'elle peut avoir, je l'ai dit, avec le conjoint, la famille, les amis, le personnel soignant. On a entendu des choses tellement fortes ce matin là-dessus. Etc., etc., et la communauté chrétienne. Voilà. Donc, la communion eucharistique révèle le Christ présent de différentes manières avec laquelle cette personne est en communion. Du coup aussi avec celui qui porte la communion, et on y vient, avec celui qui porte la communion. Ça aussi, c'est très important. C'est très important. Il s'agit d'être porteur, porter la communion à des frères qui sont malades, ce n'est pas uniquement une démarche qui va de la communauté vers la personne. C'est aussi une démarche de la rencontre des personnes. La communion portée aux malades est normalement une forme de visitation. C'est normalement une visitation. C'est-à-dire que je visite, on emploie le mot visitation, on visite des malades, des personnes malades, mais on se laisse aussi visiter par elles. On doit recevoir aussi quelque chose d'elles. Il ne s'agit pas uniquement de porter, il s'agit aussi de recevoir. Vous voyez ? Il y a une réciprocité, comme dans la rencontre de Marie et d'Élisabeth. Il y a une réciprocité. Il y a une réciprocité, voilà. Pensez à la visitation, c'est très important. Oh, c'est pas impossible. C'est pas impossible. D'abord, c'est bon signe que ça vous donne envie, quoi. C'est bon signe que vous ayez envie. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en communion avec elle, que vous avez envie de le signifier. Vous avez envie de le signifier. Ça peut être possible. Bon, si vous avez communié 5 minutes avant, c'est peut-être pas tout à fait le truc, mais ça peut se faire. Quand vous portez la communion à quelqu'un, comme ça, oui, vous pouvez communier avec, bien sûr, c'est possible. Vous ne ferez que signifier cette présence communionnelle du Christ entre vous, cette personne et la communauté. Voilà. Ça vaut le coup de dire le sens aussi. Ça vaut le coup de dire le sens. Il ne faut pas tomber dans une, je ne sais pas comment dire, quoi. Je veux le dire mal, mais une communion sympa entre copains, quoi. C'est pas ça qu'on vit, hein. C'est un sacrement qu'on vit, quoi. Donc il s'agit bien de manifester la communion avec le Christ, quoi. Après, il faut avoir l'intelligence de la situation, je crois.
Père, je peux vous poser une question?
Oui, mais après, je vais plus avoir mes 5 minutes, hein. Enfin, allez-y.
Quand on communie, on a la chance d'avoir une communion tous les, disons 4 fois par semaine.
Oui.
Pour aller vers les personnes malades.
Oui.
Pourquoi ne peut-on pas donner la communion le lendemain parce que l'hostie n'est pas du jour?
Par le
diocèse.
On en reparle après. Je ne comprends pas tout à fait la question. On en reparle après. Hein. On en reparle après. Alors, ça va jusque-là à peu près? Allez, 5 minutes. Hein. Ils m'ont donné que 5 minutes. Alors, oui, mais pas de problème. Alors, la posture. L'accompagnateur, on a dit déjà pas mal de choses autour de l'accompagnateur, vous avez noté un certain nombre de points, voilà. Après, quelle est l'attitude de fond de l'accompagnement? Ce matin, Adrien a donné le mot quand il a parlé de l'espérance, se tenir dans l'espérance. Voilà. L'accompagnement, c'est se tenir dans l'espérance. Je vais essayer de le développer en 2 ou 3 points. Je cite le rituel. Il ne s'agit pas de dire de bonnes paroles. Mais d'abord de saisir comment chaque malade vit sa situation. Notre vie est le lieu où se révèle la vraie vie. Donc on n'est pas là pour dire de bonnes paroles. On est là pour se tenir debout à côté de la personne. Alors qu'on peut être dans le temps du samedi saint, que j'évoquais ce matin. On peut être dans un temps où on ne sait pas. Voilà. On est dans la maladie, on est plongé dans la difficulté, dans la souffrance. Là, voilà. Et on ne sait pas. Voilà. Et donc, il s'agit bien, la personne évidemment, elle est très atteinte par ce qu'elle vit. Donc, comment on va être à côté de cette personne? On n'en sait pas plus qu'elle. Donc, ce n'est pas la peine de faire semblant. C'est le samedi saint. Alors moi, il y a une figure qui m'éclaire beaucoup par rapport à ça. C'est la figure de Marie. C'est la figure de Marie au pied de la croix. Alors Marie, au pied de la croix, d'abord on nous dit qu'elle est debout. Stabat mater. La mère se tenait debout. Elle est debout. Imaginez, elle aurait pu être à genoux, en train de faire sa prière, de dire « Je vous salue », le chapelet. Non, ce n'était pas inventé encore. Ce n'est pas encore inventé. Elle ne peut pas se dire « Elle-même, ça ne marche pas ». Non, non, elle n'est pas à genoux. Elle n'est pas à genoux. Elle est debout. C'est un mot extrêmement important. Elle se tient droite, debout. Voilà. Accompagner quelqu'un qui traverse l'épreuve, c'est essayer de se tenir à côté de lui, debout. Ou à côté d'elle, debout. Voilà. Le Christ nous a créés debout. Lorsqu'il est ressuscité, il s'est remis debout. Anastasis, en grec, la résurrection, ça veut dire se mettre debout de bas en haut. Il s'est mis debout. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est debout. La posture du chrétien, c'est debout. Debout. Je rappelle que c'était interdit de se mettre à genoux jusqu'au XVIIe siècle, pendant le temps pascal, le dimanche et pour les ordinations. Parce que la posture du chrétien, c'est la posture debout. Voilà. Vous voyez bien la symbolique. Après, peu importe, ce n'est pas la question. C'est pour faire comprendre la symbolique. La symbolique, c'est debout. On a été mis debout par le Christ. Voilà. Et donc, on se tient debout. Comme quand on écoute l'Évangile. On est debout. Voilà. Ça, c'est la posture de Marie au pied de la croix. C'est la posture de l'espérance. C'est la posture de l'espérance. Il y a une hymne de la liturgie que j'aime beaucoup qui dit « La femme jusqu'au jour a porté seule l'espoir du monde. Voilà. » Marie est seule et elle porte l'espoir. Elle est debout. Voilà. Vous voyez, je trouve qu'on comprend beaucoup de choses avec cette figure. Ensuite, elle se tait. Elle se tait. Imaginez Marie qui dit à Jésus « Tu sais, c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer. » Non, mais vous voyez le ridicule du truc. Vous voyez le ridicule. Non, mais alors, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Des fois, on console à bon compte. On dit, ah, bon, tu vois, ça va passer. Hein. Bon, c'est un bon... Là, évidemment, ces jours-ci, oui, peut-être tu es un peu moins bien. Là, mais non, mais tu vois, ça va passer. Ça va passer. Bon, voilà. Et non. C'est pas l'espérance, ça. On console pas à bon compte. On dit pas des paroles vides et creuses. Voilà. On se tient debout dans l'espérance. On dit des paroles affectueuses, on peut avoir des beaux gestes aussi, et on se tient debout dans l'espérance. Voilà. Nos gestes comptent peut-être autant que nos paroles, d'ailleurs, hein, dans ces cas-là. Hein. La parole est au silence, la parole est au geste aussi. Voilà. Il m'est arrivé une affaire quand j'étais jeune prêtre. Je desservais un village, et le chrétien qui était un peu chargé de la communauté chrétienne du village m'appelle, et il me dit, Christian, il te fallait avoir dans telle famille. Je t'avertis, c'est pas commode, c'est grave. Il y a un petit garçon qui s'est pendu. Oh, horreur. Moi, j'avais 27 ou 28 ans, je sais pas comment. Horreur. Oh, j'arrive pas à y aller. Mais enfin, j'y vais. Et j'arrive, et j'avais rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'avais rien à dire, quoi. Et je me retrouve avec la mère, qui avait mon âge aussi, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'était pendu au machin de la fenêtre. Voilà. On est allé dans la chambre, et au pied du lit, je l'ai pris par la main, et elle a posé sa tête sur mon épaule, et on a dit le Notre Père. C'est la seule chose que j'ai pu faire. Voilà. Et je vous passe les années, après moi je suis parti, et j'étais supérieur du séminaire, bien 15 ans après, et un jour, il y a un groupe de jeunes qui vient pour visiter le séminaire, il y avait une dame qui les accompagnait, son visage me disait quelque chose, mais... Et alors, les jeunes avaient participé à la messe, et en sortant, la dame me dit, vous ne me reconnaissez pas, mais vous allez vous en rappeler. Et je suis la maman que vous avez enterrée, etc. Ah oui. Elle m'a dit, mais je suis drôlement contente de vous retrouver et de vous voir. Parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais rien fait. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous m'avez pris par la main et j'ai posé ma tête contre votre épaule. Et puis, après, quelque temps après, je suis allé m'inscrire au catéchuménat. J'ai été baptisé et maintenant je m'occupe des jeunes de la paroisse. Et mon mari, maintenant, est au catéchuménat aussi et il sera baptisé à Pâques. Je vous le dis d'autant plus volontiers que je n'ai rien fait, j'étais effondré. C'est pas moi qui ai agi. C'est la grâce de Dieu qui a agi. Mais le geste de prendre par la main a certainement beaucoup contribué à ça. Et puis après, l'Esprit Saint a fait son œuvre. Voilà. Ça ne m'appartient pas. Voilà. Stabat Mater. La mère se tenait debout. Debout à côté. Dans la nuit, parce qu'il y a des moments où on accompagne dans la nuit, en attendant que le jour se lève. Veilleur, où en est la nuit ? En attendant que le jour se lève. C'est le samedi saint. Nous avons l'espérance, dans la foi, que Dieu va faire jaillir de la vie de toute manière. Voilà. Mais c'est un saut dans la foi. C'est un saut dans l'espérance. L'espérance n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est anticiper des choses d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui pour demain. Ça, c'est de l'espoir. En principe, ils sont déçus, d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça, l'espérance. L'espérance, c'est croire contre toute espérance. Voilà. C'est quand on est dans la nuit, croire que le jour va se lever. Eh bien, voilà ce qu'est la posture de l'accompagnateur pour des personnes qui sont en situation, auprès de personnes qui sont en situation de grande souffrance, de grande maladie, de grande détresse. Voilà. Avec beaucoup d'humilité, parce que ce qui leur arrive à eux aujourd'hui, ça m'arrivera à moi demain. Et demain, j'aurai besoin que ce soit quelqu'un qui soit debout à mes côtés pour m'aider à traverser l'épreuve. Voilà. C'est aussi une des formes de la fraternité. Merci de votre attention.
Ensuite, vous aurez une pause, vous aurez une récré, rassurez-vous. On va prendre un petit temps jusqu'à...